ces dernières semaines. Cela nous conduit tout droit à la partie questions-réponses de cette conférence de presse. Une fois de plus, mettez vos téléphones sous silence, ou en tout cas sous répondeur en tout cas, afin de nous permettre d'échanger en toute tranquillité. Nous allons donc ouvrir cette session de questions-réponses avec Goma. Nous avons commencé la semaine dernière ici, je crois, à Kinshasa. On va aller à Goma pour deux questions. Pas de questions à Goma? C'est un peu lent, hein?
Merci, je suis Vivien Zabarinda pour les comptes de la radio-télévision belge francophone TBF. La question, c'est en fait par rapport à la déclaration de l'Union européenne sur la situation sécuritaire. Il se pourrait que la partie Est, le Nord Kivu, précisément, a été déclarée comme la zone rouge présentement. On peut savoir, en fait, du côté de la MONUSCO, quelle pourrait être la perception de la MONUSCO par rapport à cette déclaration.
Merci. C'est une déclaration, effectivement, de l'Union européenne qui met l'accent sur, comme vous dites, la situation sécuritaire. Nous savons depuis très longtemps quelle est cette situation sécuritaire dans l'Est. Et c'est bien que les partenaires des Nations unies puissent, de la RDC d'ailleurs, puissent s'intéresser également à cette situation sécuritaire encore difficile, je dirais, mais qui s'améliore doucement. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Depuis le début des opérations Niamulagira contre les FDLR, Oussalama contre les ADF, nous avons vu quelques légères améliorations sur le terrain. Beaucoup reste à faire. Le colonel Amouzou a parlé tout à l'heure de la situation à Bouléouissa qui s'améliorait malgré les tensions interethniques dans cette zone. Et nous comptons poursuivre aux côtés des FRDC cet effort de pacification de tout l'Est du Congo. Et nous comptons bien sûr sur le soutien, c'est vrai, de la population locale, mais aussi des partenaires de la RDC pour nous aider à rétablir la paix et la sécurité de façon définitive dans l'Est du pays. Deuxième question à Goma.
Oui, c'est Azaf Litimire pour le compte de Poly FM Goma. Je voulais savoir, quant à la question de Bouléoussa, vous avez évoqué que les enquêtes sont en cours la semaine dernière, mon colonel. Et ces enquêtes, je voulais savoir, ce sont des enquêtes mixtes. Et quel est le résultat pour le moment de ces enquêtes? Parce que la population de Bouléoussa estime que la MONUSCO a tiré sur les populations civiles.
Merci, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que quand il y a une mission d'investigation en cours, nous n'avons pas grand-chose à dire sur ça. Je ne sais pas si vous avez suivi l'RFI, il y a deux jours, qui est allé sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est clair. La MONUSCO a riposté. La MONUSCO et les FADC ont riposté au tir des groupes Mai Mai. Et ça, je pense que l'RFI, en questionnant des populations civiles, a eu la même version. Mais laissons le temps à la mission d'investigation pour faire son travail. Merci beaucoup.
De façon claire, je veux revenir sur cette séquence à Bouléoussa. Il faut dire qu'effectivement, tout est parti du fait qu'il y avait des tensions interethniques à Bouléoussa. La brigade d'intervention a été dépêchée rapidement sur les lieux pour pacifier, maintenir la paix et la sécurité dans cette zone. Et lorsque nous avons vu le flot de réfugiés envers le camp FRDC, qui était important, 2 500 à 3 000 personnes se sont retrouvées dans ce sens, et face à une crise humanitaire possible, la MONUSCO a essayé de dépêcher sur les lieux des vivres. 4,7 tonnes de vivres ont été dépêchées pour venir aider donc ces populations, et c'est là que des groupes Maïmaï ont essayé de s'interposer. dans l'interposition des coups de feu sont partis et la MONUSCO a dû reposter. Et nous avons partagé avec vous ce bilan. Il ne s'agit pas de population, il s'agit bel et bien de groupes Maïmaï qui s'interposaient à l'action humanitaire de la MONUSCO sur le terrain. Et je crois que tout cela est très clair. Hein. Nous avons acheminé sur place les autorités provinciales à 3 reprises. Et ils ont pu constater tout l'effort, non seulement au point de vue sécuritaire que nous avons mené, mais aussi au point de vue de la médiation avec les différentes communautés locales pour les encourager à faire la paix entre elles, ces communautés-là. Et donc nous allons continuer. La situation à Bouléoussa à l'heure actuelle s'améliore, se stabilise et c'est un effort sur le long terme. Nous savons que non seulement du côté de la PNC, mais aussi des FARDC, des renforts sont attendus pour Bouléoussa. Nous les encourageons et nous allons soutenir cet effort de renfort dans cette zone pour sécuriser et pacifier définitivement Bouléoussa et toute la région autour. Nous allons revenir ici à Kinshasa pour prendre une question sur la droite. Nous avons un micro ici, je crois.
Oui, Albert Omba, Numérica TV. Le commandant des forces a déclaré lors de sa tournée que la pacification de Grand Nord est une question politique plutôt que militaire. Ce qui fait que tous les efforts que les FARDC, la MONUSCO mènent dans cette contrée contre les ADF et les FDLR sont vaines.
Pas vraiment. Vous avez mal cité le commandant en force de la MONUSCO qui disait effectivement que les actions militaires sont nécessaires sur le terrain, mais cela doit s'accompagner par aussi ce que nous appelons des médiations au niveau des différentes communautés, au niveau des différentes populations de cette zone, parce que c'est vrai, militairement on peut régler le problème, mais s'il y a des problèmes de fonds sociaux, des fonds de convivialité intercommunautaire, il faut aussi les régler. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Nous mettons, c'est vrai, l'accent beaucoup sur le règlement militaire d'un certain nombre de questions, mais il faut que cela soit accompagné sur le terrain par l'effort de médiation intercommunautaire qui est aussi capital. La MONUSCO s'engage dans cette médiation à travers ses sections comme la section des affaires civiles, la section parfois genre, la section aussi la section droits de l'homme d'ailleurs qui accompagne ce travail de médiation sur le terrain afin d'apaiser les cœurs, afin qu'il y ait une convivialité, comme je dis, dans les différentes régions. Nous passons à gauche ici pour prendre une question. Ensuite, on va vous donner le micro, puisque vous avez le micro.
Merci. Allô, c'est ça? Isaac Nguenza pour le compte Congo Opportunities.
Vous êtes un fidèle parmi les fidèles.
Merci. J'ai une préoccupation par rapport à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Et je pense que dans 2 jours, nous entamons le mois de juillet. Le dialogue, tant entendu, n'est pas encore là. De l'autre côté, le parti au pouvoir s'apprête à organiser un référendum constitutionnel afin de modifier la constitution pour permettre au président actuel, Joseph Kabila, de pouvoir briguer un 3e mandat. Moi, ma question est de savoir, est-ce que la MONUSCO soutiendra-t-elle une idée d'une quelconque modification de la constitution pour permettre au président actuel de briguer un 3e mandat? Ça, c'est votre question. Au colonel Amouzou, je veux juste savoir, quand il a présenté le rapport sécuritaire de cette semaine, il a utilisé l'expression « résultat significatif » dans les opérations conjointes et Oussalama dans le territoire de Beni. Qu'est-ce qu'il veut dire par « résultat significatif » au moment où les ADF sont toujours là et ils continuent à maltraiter la population? Merci.
Pour votre première question, il faut dire qu'il y a une constance dans le point de vue, dans l'attitude, dans ce que nous communiquons au niveau des Nations Unies par rapport à la situation donc politique à RDC. Et cette constance vient du fait que nous avons comme feuille de route la résolution 2277, nous avons comme feuille de route également les différentes déclarations du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vont tous dans le même sens. Et j'allais dire d'ailleurs que la communauté internationale adhère à cette prise d'opposition onusienne par rapport à cette situation politique de la RDC. Nous avons réaffirmé fort qu'il était nécessaire d'aller au dialogue. Nous avons réaffirmé de façon claire et nette que les délais constitutionnels devaient être respectés. et nous pensons pas que les Nations Unies, en tant qu'institution supranationale, aient évolué sur ces questions. Notre position n'a pas changé d'un iota. Nous encourageons et nous disons donc que nous interpellons la classe politique dans son entièreté, de droite ou de gauche, de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, de différentes plateformes de l'opposition d'ailleurs, à aller vers le dialogue et à créer un consensus politique qui pourrait donc permettre aux uns et aux autres d'aller vers ces élections de façon apaisée, afin que ces élections aussi puissent être transparentes, etc. Et donc, cette position des Nations Unies n'a pas évolué. Récemment encore, le Conseil de sécurité est revenu dessus, réaffirmant cela de façon très claire. Et c'est pour cela que nous avons dit clairement que nous appuyons les efforts du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, pour que ce dialogue puisse avoir lieu avec le maximum d'acteurs politiques autour de la table, pour que ce consensus puisse se dégager de façon, en tout cas avec la majorité des partis impliqués, afin que nous puissions avoir cette feuille de route politique qui puisse nous amener vers ces élections dans un climat apaisé. Soutien au référendum, une fois de plus, ce n'est pas dans la feuille de route des Nations Unies pour l'instant, et vous savez que c'est une proposition qui a été lancée, mais qui ne fait même pas l'unanimité à l'heure actuelle au sein de la majorité présidentielle. En tout cas, nous n'avons pas vu un consensus fort autour de cette idée. C'est vrai que l'idée a été remise, mais beaucoup de gens émettent pas plein d'idées. Hein. On a entendu aussi dire que il y a d'autres facilitateurs qui seraient en vue, mais nous avons à l'époque aussi rejeté cela de façon claire et nette. Je crois que ça fait partie du jeu politique d'avancer un certain nombre d'idées politiques pour, j'allais dire, tâter le terrain et voir si, effectivement, on peut, c'est des pistes à explorer, oui ou non. Et donc, c'est à la classe politique, c'est vrai, de continuer à débattre de cela. Pour notre part, notre position est claire, nous avons une feuille de route. Résolution 2277, différentes positions du secrétaire général et du conseil de sécurité sur laquelle nous continuons à avancer, et nous allons continuer à le faire jusqu'à ce que éventuellement la donne éventuellement change, mais pour l'instant nous en sommes là. Nous allons prendre encore une question sur oui, c'est vrai que la deuxième partie de cette question allait au colonel. Colonel, je crois que vous vous rappelez de cette deuxième partie de la question.
Si, je me rappelle bien. Et l'opération Oussalama a commencé le 14 mai dernier contre l'ADF en territoire de Bénin. Et je peux vous assurer, vous confirmer que un mois après le lancement de l'opération Oussalama, nous disposons quand même d'un bilan provisoire significatif. C'est pourquoi je parle de résultat significatif. Et comme bilan, nous avons plus d'une trentaine d'ADF qui ont été tués, plus d'une quinzaine capturés, de l'armement, un nombre important d'armement récupéré. Et encore, le numéro 2 de l'ADF a été tué le 13 juin dernier, dans la localité de Kimboa. Il s'appellerait Hodo Lukwago. Il a été tué. Donc, c'est à cause de tout ça là que moi, je parle de résultats significatifs sur le terrain, après un mois d'opération.
Et n'oubliez pas aussi que depuis l'attaque des ADF contre la localité de Luna, dans le Grand Nord, il n'y a plus d'attaque majeure de l'ADF sur le terrain. Nous ne disons pas que tout est parfait, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de mouvement des ADF sur le terrain. Ils sont encore en train d'essayer de se réorganiser. Il y a encore quelques bases, mais ce n'est plus une force négative au point où c'en était il y a déjà 2 ans avant le début des différentes opérations contre les ADF sur le terrain. C'est vrai que, et c'est pour cela que le colonel ne cesse d'appeler, j'allais dire, les populations locales à collaborer, à coopérer, à échanger des informations utiles avec les forces armées de la RDC et aussi avec la MONUSCO, pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces encore et afin de finir ce travail que nous avons entamé. Nous allons prendre une question. J'ai pas le micro, mais il y a un monsieur qui est au fond là qui n'a jamais posé de question, je crois. Lui, c'est un ancien de la maison. Oui, allez-y, présentez-vous et puis posez votre question.
Ouais, c'est Christian Beaufoy de la CBS TV. Ma question est la suivante. Premièrement, je commence sur les dialogues. L'opposition, récemment, ils se sont réunis à Bruxelles, en Genval, pour parler du dialogue. et il refuse beaucoup plus les dialogues de convoqués par le président Kabila. Il soutient les dialogues que vous avez convoqués concernant la résolution 2277. Quelque part, vous, de votre camp, vous êtes en train de perturber un peu l'ordre public dans votre résolution, parce que vous vous attelez beaucoup plus, hein, l'opposition s'attelle beaucoup plus à votre dialogue que celui du président Joseph Kabila. Et puis, deuxièmement, concernant la situation sécuritaire à Goma, c'est pas aujourd'hui que cette situation a commencé, c'est depuis longtemps. Et la MONUSCO aussi n'est pas d'aujourd'hui, ça date vraiment de longtemps. Mais pourquoi cette situation n'a pas eu fin? Ça continue toujours. Et c'est comme si vous échouez dans votre mission, qui est d'accompagner le FARDC à vraiment à cesser et arrêter cette situation à l'Est. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça date cette situation.
Ok, c'est merci. Ça ma question. Par rapport à votre première question, vous parlez du dialogue, proposé par le gouvernement ou les autorités gouvernementales du pays et puis le dialogue des Nations Unies. Je ne sais pas si réellement vous pouvez nous produire un seul document où les Nations Unies proposent un dialogue pour la RDC. Est-ce que vous avez un document qui nous dit ça, ou qui vous dit ça, que les Nations Unies proposeraient un dialogue national pour la RDC? Non, vous ne pouvez pas nous le produire. Donc, essayez de ne pas faire d'amalgame. Il y a un seul dialogue voulu d'ailleurs par les autorités, par le président Joseph Kabila, et c'est à la suite de cette proposition de dialogue national que les autorités gouvernementales ici ont demandé un facilitateur au niveau national. Et l'Union africaine a proposé M. Edem Kodjo, les Nations Unies soutiennent, et je répète, les Nations Unies soutiennent résolument M. Edem Kodjo dans sa mission. Et voilà, il y a une seule proposition de dialogue, il n'y en a pas deux. Et nous nous engageons une fois de plus résolument dans le soutien de M. Edem Kodjo, dans la mesure où, je peux vous l'annoncer, le siège des Nations Unies à New York vient de renforcer cette équipe du facilitateur de l'Union africaine avec des spécialistes qui ont rejoint donc l'équipe. D'autres sont attendus dans les jours qui viennent pour lui prêter main forte afin que ce dialogue puisse être réalité sur le terrain, afin qu'elle puisse être engagée, déclenchée pour, essayer d'éclairer un peu ce processus électoral qui peine, c'est vrai, à décoller autour des questions du dialogue national. Voilà un peu ce que je pouvais dire maintenant sur l'autre volet qui dit que la situation sécuritaire ne s'améliore pas depuis que la MONUSCO est présente sur le terrain. On ne veut pas vous ramener chaque fois en arrière depuis San City, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais c'est clair que les Nations Unies ont grandement contribué. Dans un pays qui était divisé en trois parties entre Goma, Kisangani et Kinshasa, a réunifié ce pays avec la participation et l'effort des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'effort des autorités nationales congolaises, un travail immense a été fait qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et c'est clair parce que aujourd'hui la situation n'est pas ce qu'elle était après le dialogue après les rencontres de Sun City. Aujourd'hui la situation n'est pas ce qu'elle était même il y a 5 ans avant le démarrage des opérations Oussalama dans le Grand Nord, plusieurs centaines de personnes étaient prises en otage dans les forêts donc du Grand Nord par les ADF. Beaucoup sont libérés, l'ADF est presque démantelé, en fuite, nous savons qu'ils opèrent en petits groupes maintenant. Nous essayons d'achever ce travail aux côtés des FRDC, il faut, je crois, saluer ce travail qui est en train d'être fait. C'est vrai que c'est pas fini, c'est vrai que ça reste encore difficile, mais il y a néanmoins des améliorations sur le terrain qui sont notables et que nous allons poursuivre. Nous ne nous satisfaisons pas de la situation actuelle, loin de là. La feuille de route qui nous est donnée par le Conseil de sécurité est claire, neutralisation de l'ensemble des groupes armés dans l'est du pays, et nous savons qu'il y en a beaucoup. Au-delà des grands noms que vous savez, il y a plein de groupes Maïmaï qui pullulent au sud, qui jouent dans l'Ituri, dans d'autres régions de la RDC, et nous sommes à pied d'œuvre aux côtés des FRDC pour régler ce problème. Nous allons prendre une question ici avant d'aller à Goma. Bon, allez-y alors, puisque la semaine dernière, vous n'avez pas eu droit à la parole, je crois.
Merci pour la parole, Sifonia Katumba. Pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à l'intervention du directeur Charles-Antoine Bambara. Le facilitateur Edem Kodjo rebondit avec force sur le terrain grâce au panel lié à son pouvoir de conduire le dialogue inclusif, à bon port et sans faire naufrage en République démocratique du Congo. Est-ce que cette fois-ci, la MONUSCO va peser de tout son poids en sorte que les zones d'ombre cessent, car les comités préparatoires jusqu'à ce jour piétinent. Je vous remercie.
Bon, dans tous les cas, comme j'ai dit, le facilitateur lui-même, nous allons essayer de voir dans quelle mesure il peut s'adresser à cette conférence de presse dans les semaines qui viennent, et il va vous le dire. Je ne pense pas qu'on puisse dire, c'est vrai que le dialogue n'a pas démarré, c'est vrai que le dialogue a des lourdeurs, mais ce n'est pas dû au facilitateur lui-même. La donne politique n'est pas aussi facile à gérer ici. Je crois qu'il revient de Bruxelles où il allait rencontrer tous les participants à cette rencontre du conclave de Bruxelles. Il s'est rendu ces derniers jours à Brazzaville pour tenir langue avec le président du pays voisin du Congo. Donc, tout cela, c'est pour essayer d'avoir le soutien des uns et des autres. C'est pour avoir l'appui des uns et des autres autour de la facilitation qu'il est en train de mener. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons d'autant plus conscience de ces difficultés que le siège des Nations Unies à New York a décidé de renforcer cette équipe avec des experts et spécialistes dans différents domaines d'ailleurs, qui ont rejoint ou qui vont rejoindre dans les jours qui viennent cette équipe afin de la renforcer, afin de la rendre encore plus performante. Mais beaucoup de travail a déjà été fait. C'est vrai que c'est toujours difficile de réunir toutes les tendances politiques autour de cette idée du dialogue qui a été lancée et qui, pour nous, Nations Unies, nous pensons que ça peut être effectivement une approche de sortie de crise. Vous savez que récemment, d'ailleurs, la CENCO a pris position par rapport à cela après son assemblée de ces derniers jours ici à Kinshasa. Et nous pensons que tout cela va dans le bon sens. Il faut encourager toutes les bonnes volontés qui appuient donc ce processus politique afin de trouver une sortie de crise, une sortie de cette situation qui ne nous permet pas d'entrer de plein pied dans ce dialogue qui serait, en tout cas, à notre avis, souhaitable. Direction Goma, s'il vous plaît, sinon les collègues de Goma vont pas être très contents. Goma, deux questions.
Oui, c'est Caleb Kabanda, journaliste indépendant. Et il y a beaucoup de bruit qui circule pour le moment à Goma et au Nord Kivu, qui est le M23 pourrait reprendre l'hostilité sous un autre nom, qui a aussi notre mouvement d'un groupe armé qui serait en organisation, qui pourra être dirigé par le colonel Nyi Tegeka, l'ex-commandant des FDLR. Ces informations, est-ce que la MONUSCO est-elle informée, parce que ce sont des choses qui se passent sur le réseau social. Si vous êtes informé, qu'est-ce que vous préconisez pour empêcher que il y ait création encore de ces groupes armés M23, l'autre aussi qui selon les réseaux sociaux, ça dit que ça serait un groupe armé qui s'appellerait CNRD.
Au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup de bruit, de rumeurs qui circulent. Hein. C'est pas tout ce qui se dit, c'est pas de l'information journalistique souvent. Malheureusement, c'est vrai que de temps en temps, il y a des informations qui sont vérifiables ou qui peuvent être vraies, mais je dirais un bon pourcentage d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont plutôt à prendre avec un peu de réserve. Pour ce qui est du M23, vous savez qu'ils sont engagés dans le processus de transformation de leur mouvement en parti politique et que des négociations se sont engagées ici même à Kinshasa il y a quelques semaines où des représentants du M23 sont venus discuter dans le cadre de l'accord cadre de Nairobi, donc pour voir dans quelle mesure après la signature de cet accord les différentes rubriques de cet accord pouvaient être exercées, être mises en œuvre. Les blocages qui avaient été constatés autour des discussions, nous croyons qu'il y a eu des avancées puisqu'une deuxième rencontre est prévue. Nous savons que ces jours-ci une autre délégation, peut-être la même d'ailleurs, du M23, sera également ici pour poursuivre ces négociations qui avaient été engagées dans le cadre de cet accord-cadre-là. Et donc, nous espérons que En tout cas, c'est une piste dans laquelle s'est engagé le M23 et nous pensons que c'est la bonne. Et c'était prévu d'ailleurs dans le cadre de cet accord et nous pensons que c'est à encourager. C'est vrai que le M23 est un grand mouvement. Peut-être que quelques-uns, nous n'avons pas de certitude à l'heure actuelle, quelques-uns de ces éléments ont rejoint quelques mouvements. Nous n'en savons rien, mais peut-être que dans les jours prochains, ce sera beaucoup plus clair. Pour ce qui est de l'existence de notre groupe armé, peut-être que le colonel Amouzou, qui est avec vous à Goma, peut apporter quelques éléments de réponse s'il a quelques informations.
Merci, Charles. Et effectivement, selon les rumeurs, il aurait un groupe armé en gestation. Mais nous avons lancé nos troupes sur le terrain pour vérifier l'information. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore le feedback. Mais ce matin, je suivais Radio Polé FM, où ils avaient interviewé les 10 colonels ou certains qui parlaient de que ce groupe n'est pas un groupe armé, que ce serait un parti politique. Et je demanderai à aux confrères, aux journalistes de Goma de suivre un peu les infos à Goma. Ce matin, moi, j'ai suivi ça, que le gars a été interviewé, il disait que c'est pas un groupe armé, que ce serait un parti politique. Des réfugiés rougandais du FDLR. Merci beaucoup.
Alors, d'ailleurs, c'est pas une fois n'est pas coutume. D'habitude, je pose pas de questions, mais moi, je vais poser une question aujourd'hui. Alors, je vais me retourner vers Florence Marchal, parce que le colonel parlait tout à l'heure d'un groupe de réfugiés qui aurait créé un parti politique. Ça m'étonne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les textes internationaux autorisent des réfugiés en territoire étranger à créer un parti politique, Madame Florence Marchal?
Alors évidemment, on a interrogé le haut commissariat aux réfugiés à ce sujet. La question est complexe et ils sont encore en train de faire des recherches. Mais il semblerait que dans les textes internationaux, la convention de 1951 et la convention de l'OUA sur les réfugiés, on n'exclut pas d'activités politiques. Toutefois, il est quand même mentionné dans la convention de l'OUA que tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et aux règlements du pays dans lequel il se trouve, et qu'ils doivent aussi s'abstenir de tout agissement subversif, dirigé contre un État membre de l'OUA. Donc voilà, mais on va continuer les recherches parce que c'est quelque chose effectivement qui nous interpelle tous aujourd'hui et on est tous curieux d'en savoir plus à ce sujet.
Goma, une autre question?
Merci beaucoup, c'est Patrick Félix Abeli pour les comptes de Hope Channel Télévision à Goma et les journaux Écran Kivu. Charles Bambara, à votre qualité de directeur de l'information publique, nous pouvons savoir comment évolue le partenariat MONUSCO à travers la section Child Protection et la Fédération Congolaise de Football Association, la FECOFA, en termes très clairs par rapport à votre campagne de sensibilisation pour extraire les enfants de groupes armés. Est-ce que nous pouvons savoir combien d'enfants ont été extraits des chefs de groupes armés?
Cette campagne a été effectivement lancée. Je peux vous confirmer le lancement de cette campagne. Nous avons plusieurs acteurs, plusieurs sportifs, plusieurs stars du football congolais qui ont accepté à travers la FECOFA d'endosser, j'allais dire, les différents slogans de cette campagne qui ont été enregistrés, qui ont commencé, je crois, sinon ils vont commencer ces jours-ci à passer sur Radio Capi et puis sur plusieurs autres chaînes de télévision de la place. Et donc, nous espérons faire un peu le bilan de l'impact de cette campagne qui vient d'être lancée. C'est un peu trop tôt pour faire le bilan, mais nous savons que même en dehors de cette campagne, la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO à travers les différentes campagnes qu'elle a menées autour de l'Ituri, dans le Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Nous savons que cette section avait eu déjà pas mal d'impact et avec, j'allais dire, ce partenariat avec la FECOFA et puis l'équipe nationale de football, les Léopards de la RDC, nous pensons que l'impact va encore être beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Et peut-être que dans quelques semaines, comme je dis, nous allons inviter la responsable de cette section pour venir faire un peu un premier bilan pour vous ici, pour nous dire quel a été vraiment l'impact réel de cette campagne pour la démobilisation des enfants auprès des groupes armés. Voilà, je crois que dans très peu de temps, Radio Capi va couper, mais nous allons poursuivre et prendre une dernière question peut-être ici. Il n'y a pas de dames aujourd'hui qui posent des questions, hein. C'est un peu... d'habitude, nous avons toujours deux, trois dames, mais bon, on va prendre là, et ensuite...
Merci. Théodore Ngandou, au compte de Télé 7. 30 juin 1960, 30 juin 2016, cela fait exactement 56 ans, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Quelles sont les impressions de la MONUSCO 56 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, ou quel est le message de la MONUSCO à l'occasion de ce 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale?
Tout d'abord, bon anniversaire à la RDC. Et en tant que partenaire officiel de la RDC, je peux vous dire que nous allons partager cette fête avec... les autorités, avec la population nationale congolaise. Et je peux vous informer que le représentant spécial du secrétaire général en RDC, Monsieur Maman Sambo Sidikou, se rendra demain à Kindu pour participer avec le corps diplomatique, l'ensemble des autorités qui seront présentes à Kindu aux célébrations de cet anniversaire. Et c'est pour apporter, il apportera donc un soutien concret de la MONUSCO à travers sa présence à ces cérémonies-là aux autorités nationales. Et nous, vous savez que nous sommes partenaires, c'est vrai, partenaires pour les opérations militaires, mais aussi partenaires pour le développement purement et simplement de la RDC, à travers différentes actions, à travers différentes initiatives que nous prenons, à travers les différentes sections de la MONUSCO. Nous vous donnons souvent des informations, par exemple, sur la police des Nations Unies. Il y a beaucoup d'efforts que entreprend, par exemple, la police des Nations Unies sur les questions de réforme de la police nationale, sur les questions de réforme des services de sécurité à travers d'autres sections également, et beaucoup d'autres travaux se font à travers aussi la réforme du secteur de la justice, etc., où des actions sont entreprises. Et nous essayons de collaborer à tous les niveaux. C'est vrai que nous avons tendance à mettre l'accent sur les questions militaires sécuritaires parce que c'est nécessaire, parce qu'effectivement, au cœur de la mission de la MONUSCO, il y a ce mandat de protection des civils, mais au-delà, beaucoup d'actions sont entreprises pour accompagner le gouvernement de la RDC. Je crois que c'est le message que le représentant spécial va apporter lors de cette célébration à Kindu à travers sa présence. Et nous pensons qu'il pourra lui-même revenir ici pour vous le dire, parce qu'il compte faire une rencontre avec la presse à son retour. Nous ne savons pas exactement quand, mais une fois que la date sera retenue, on partagera ça avec vous. Fin de cette conférence de presse. La semaine prochaine, nous aurons beaucoup plus de temps pour aborder beaucoup plus de questions. Merci à tous et à toutes.